Vous allez bien? Bon. Ce matin, avant d'écouter le témoignage de Fanny, j'aimerais regarder avec vous à quelques versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Lorsque Jésus prononce ces paroles, je vais vous donner un petit peu le contexte. Il y a une foule de gens rassemblés sur la place du Temple à Jérusalem. C'est le dernier jour de la semaine festive, la semaine, la fête des tentes ou la fête des tabernacles que l'on appelle aussi de son nom hébreu, attention, Soukhot. C'était une fête qui durait 7 jours et là c'est le dernier jour de la fête. Donc c'est une semaine de fête qui prend toujours place aujourd'hui, bien sûr, hein, et qui va d'ailleurs commencer ce soir. Donc la semaine va commencer ce soir à Jérusalem. Pour les Juifs, c'est une semaine importante. C'est une semaine dans laquelle ils vont se rappeler qu'ils ont été libérés de l'Égypte, et puis qu'ils avaient dû vivre sous des tentes. On a dit que quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert, ils étaient sous des tentes, des abris temporaires. C'est ça que veut dire Soukhot au pluriel, c'est le pluriel, ça veut dire des tentes, des abris temporaires. Donc ils vivaient cette semaine dans des tentes, hors de leur maison. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de Juifs qui vont mettre une sorte de petite cabane sur leur balcon, sur leur terrasse, puis ils vont y passer un petit moment chaque jour pour se souvenir de ce que Dieu a fait, pour célébrer la gloire de Dieu. Et lors de cette fête, il y avait tous les jours un acte un peu rituel, prophétique qui se plaçait au temple. On citait cette parole d'Ésaïe : « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et pour montrer cela, le grand prêtre allait dans un bassin, une piscine, la piscine de Siloé. Je vous ai mis 2 images ici, là. L'image un peu reconstituée d'époque, donc c'est en bas de la ville, et puis aujourd'hui, les fouilles actuelles ont pu remontrer où était ce lieu. Donc on allait là, le grand prêtre allait là, puis il allait chercher de l'eau, et il montait au temple avec cette eau, et puis il la déversait à côté de l'autel des sacrifices. C'était une manière de demander à Dieu de faire tomber la pluie de l'arrière-saison, hein, parce qu'ils venaient de fêter les récoltes, donc on demandait la pluie de l'arrière-saison, puis c'était aussi une manière de demander à Dieu qu'il déverse son esprit, sa pluie spirituelle. Donc c'était le dernier jour, c'était le point culminant, et puis là il y a une foule importante qui est là sur cette place, et il ne fallait surtout pas manquer cette cérémonie-là. Les gens accompagnaient le prêtre dans cette démarche de la piscine jusqu'au temple. Et puis, à ce moment-là, il va déverser cette eau. Et il y avait généralement un grand silence qui prenait place. Les gens étaient attentifs. Et c'est là que Jésus va crier : Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors vous pouvez imaginer la stupéfaction sur cette place lorsque Jésus va crier cela. Cette foule avait besoin de nourriture spirituelle. Cette foule avait faim, elle avait soif. Mais les gens pensaient que ce qui allait les nourrir, c'était un acte spirituel. Ce qui était bon, ce qui allait faire la différence, c'est de respecter ces fêtes, de respecter la tradition. Mais Jésus était là, sous leurs yeux. Et ils ne regardaient pas au bon endroit. Jésus s'adresse non pas à une foule, mais à chacun individuellement sur cette place. Il dit : Si quelqu'un a soif. Et il demande une réponse personnelle. Cet appel de Jésus, cette offre, elle est tellement essentielle pour chacun de nous. Nous sommes ici dans une série de messages que j'ai intitulé « Équilibre pour une vie qui atteint sa cible ». Et j'avais pris l'image d'une flèche. Comme une flèche, notre vie a besoin d'être équilibrée pour atteindre sa cible, pour atteindre le but pour lequel nous avons été créés, pour lequel nous sommes faits, le projet de Dieu pour nous. Enfin, Dieu a le désir que notre vie atteigne sa cible. Et j'aimerais simplement redire ce matin que Jésus seul peut combler votre soif intérieure. Jésus seul peut reconstruire votre vie afin qu'elle retrouve un équilibre, un bon équilibre. Il n'y a que Jésus qui peut redonner une bonne direction, une juste direction à votre flèche. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe les détours, mais c'est jamais trop tard avec Jésus. Il peut réorienter vers la bonne cible. Il peut vous montrer le pourquoi vous êtes fait. Et suite aux mots de Jésus sur cette place, il y avait une monstre discussion. Parce que certains ont dit « Ah ben, c'est un prophète !» Puis d'autres ont dit « Ah ben, c'est le Christ !» Et puis il y a bien sûr ceux qui ont contesté. Non, non, parce que l'histoire n'est pas toute simple, hein, mais on savait que Jésus venait de Nazareth. Puis Nazareth, ce n'est pas le pays de Juda, ce n'est pas la descendance de David. Alors ils disaient « Ah, mais ça peut pas être un Galiléen, il ne peut pas venir de Galilée. » Probablement qu'il avait un accent galiléen, parce qu'il avait grandi en Galilée. Mais ils ne savaient pas, ils avaient oublié, on aurait dit qu'il était né à Bethléem. Donc c'était bien le fils de la descendance de David, comme annoncé par les prophètes. Alors certains, théologiquement, disaient « Ah non, ça ne tient pas la route, ça ne peut pas, il est Galiléen, ça ne marche pas. » Puis ils contestaient. 2000 ans plus tard, ce n'est pas différent. Il y a toujours ceux qui disent « c'est qu'un prophète ». Il y a toujours ceux comme nous qui disons « mais c'est Jésus, le Messie, le Sauveur ». Et puis il y a toujours ceux qui contestent sur des points de discordance théologique, etc. Mais dans ce récit, il y a quelque chose de plus. Les autorités religieuses, elles ne voulaient pas de Jésus. Ça les embêtait, ce Jésus-là, parce qu'elles les bousculaient. Ça bouscule leur tradition. Eux, ils voulaient vivre leur fête comme d'habitude. Ça, c'était ce qui était écrit, c'est ce qu'il fallait faire. Puis Jésus, il vient bouleverser tout ça. Ça c'est un peu embêtant, quoi. Hein, si, je ne sais pas, quand vous avez prévu quelque chose, puis vous avez l'habitude de le faire, puis quelqu'un vient tout déranger à la dernière minute, c'est un peu saoulant, quoi, mince. Mais c'est un peu ça, ils avaient l'impression, mais qu'est-ce qu'il dit encore ce gars-là? C'est qui? Il fait quoi? Ils ne voulaient pas changer leur manière de faire. Ils n'avaient peut-être même pas envie que leur compréhension de la Bible, des Écritures, soit changée. Alors eux, ils voulaient qu'on arrête Jésus. C'était le plus simple. Il faut l'arrêter. C'est un perturbateur. Il dérange tout le monde. Arrêtons-le. Et puis voilà qu'ils voient leurs gardes, les gardes qui reviennent, et ils viennent sans Jésus. Et puis là, ces chefs religieux, ces pharisiens vont demander « Mais pourquoi ?» Comment se fait-il que vous revenez sans Jésus? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté quand même? Et puis là, ces gardes vont dire ceci, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Les gardes étaient étonnés. Les gardes avaient entendu quelque chose de différent. Ils avaient été touchés en profondeur. Les paroles de Jésus étaient venues titiller leur soif intérieure. Jamais personne n'a parlé comme Jésus. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Lui seul peut parler dans ta vie de manière à la transformer, à répondre à ta soif. Mais est-ce que tu es prêt à le laisser te parler? Est-ce que tu es prêt à recevoir son offre ce matin? Le choix de répondre à l'offre de Jésus, de boire cette eau qui donne une vie abondante, le choix de le mettre au centre de notre vie, c'est un choix individuel, c'est vrai. Mais il est soumis, quelque part, il est aussi public et il est soumis à rude épreuve. Parce qu'il y a de fortes influences qui veulent nous retenir. C'est bien pour cela que dans ce texte, les gardes, ils ne vont rien dire de plus. Ils vont dire, ils parlaient bien, mais ils ne vont pas prendre position. Mieux vaut pas dire qu'ils croient quand même que c'est le Messie parce qu'ils allaient perdre leur place. Ils allaient fâcher leur chef. Et c'est la même chose pour un prénommé Nicodème, qui aussi dans ce texte, juste après, va dire ceci. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu toi aussi de la Galilée ?» Nicodème avait une rencontre particulière avec Jésus que vous pouvez lire en Jean chapitre 3, durant laquelle il avait demandé à Jésus « Comment naître de nouveau ?» Comment c'est possible de renaître? Ça paraît quand même bizarre, on a un papa, une maman, on naît, et comment c'est possible de renaître? Alors Jésus lui avait expliqué que c'était une naissance spirituelle, c'était une renaissance dans une nouvelle vie avec Jésus. Mais Nicodème était intrigué, et puis il est en recherche, il se questionne intérieurement, et puis ici, sans se faire trop remarquer, il prend la défense de Jésus. Il essaye d'éviter une condamnation injuste de ce Jésus-là. Il aimerait s'appuyer sur la loi, même la loi romaine aussi, pour que Jésus ait la possibilité de s'expliquer, mais pas qu'on le condamne sans l'avoir entendu. Et puis il est tout de même rapidement questionné. Est-ce que tu es aussi de la Galilée? Est-ce que finalement tu es du côté de Jésus ou tu es de notre côté? Nicodème, comme ses gardes, ne pouvait pas affirmer croire à Jésus, ne pouvait pas dire que Jésus était le Messie, le Sauveur. Il était influencé négativement, un peu emprisonné. Il était difficile pour lui de se libérer de ses influences. Il risquait de perdre sa réputation, il risquait de perdre son travail, il risquait de perdre ses amis. Qu'allait-on dire de lui? Il est dit ici que Nicodème était l'un d'entre eux. Donc Nicodème était un docteur de la loi, était un enseignant. Il avait une autorité religieuse reconnue. Il faisait partie d'un groupe, il y avait un sentiment d'appartenance fort. Il était pharisien. Alors il devait être tout au fond de lui tellement tiraillé. Personne ne parle comme lui. Je peux vivre une naissance spirituelle, une nouvelle vie avec Jésus. Puis de l'autre côté, des hommes que tu respectes, des hommes qui sont des amis, des collègues, te disent « c'est pas vrai, ce que tu crois c'est faux ». Jésus, ce n'est pas le Messie. Pas facile de faire face à ses influences. Et cela va poser deux questions qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour boire cette eau vive et pour suivre Jésus? Une deuxième question, quel est le regard qui compte vraiment sur ma vie? Pour que ta vie atteigne sa cible, pour que ta vie atteigne le pourquoi elle a été créée, pour que ta vie prenne sens, il faut parfois accepter de ne pas être compris de tous. Il faut peut-être accepter de perdre ta réputation, d'ailleurs qui n'est pas toujours très bonne, mais qui fait partie de notre besoin d'appartenance. Hein, parfois, quand on choisit de suivre Jésus, on va se retrouver avec des gens qui nous connaissent bien, puis ils vont dire « Ah ben, tu bois plus comme avant maintenant, tu bois moins ?» C'est dommage, hein, on aimait bien, tu buvais un peu trop, c'était marrant. Mais les choses changent, puis on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Peut-être qu'on avait la réputation du buveur, moi j'avais la réputation du bon mangeur, bon, je mange toujours pas mal, mais plus pour les mêmes raisons, je ne suis pas en train de chercher quelque chose, je suis pas en train de chercher à exister en mangeant beaucoup, puis en montrant que je suis capable de manger aussi autant que mes frères aînés qui font 1m90. C'était ça quand j'étais petit. Non, mais il y a des choses qui changent. Nos buts de vie, nos intérêts sont différents. On lâche aussi notre passé, notre ancienne manière de vivre. Il y a des changements qui sont là. Alors aujourd'hui, en prenant son baptême, Fanny, elle a décidé de suivre Jésus, de mettre sa foi en lui. Elle n'a pas juste répondu à Jésus, « Je suis intéressée par ton offre ». Elle a choisi de venir à lui et de boire. Alléluia! Elle qui avait tellement soif. Et en s'engageant à suivre Jésus, elle dit « Je suis prête à perdre ce qui doit l'être au fond de l'eau pour suivre Jésus, pour renaître avec Jésus, pour que ma vie soit comme cette flèche équilibrée qui va atteindre sa cible, sa raison d'être. » Jésus utilise l'image aussi de la vigne en disant qu'il est nécessaire de tailler la vigne pour porter des fruits, hein, des choses qu'on doit perdre parfois. En prenant son baptême, elle dit aussi que le regard de Dieu sur sa vie est le plus important. Ce que Dieu dit de moi, son amour pour moi, est source de joie et il me suffit. il me construit. Je crois pertinemment que tant que nous ne sommes pas prêts à tout perdre pour Jésus, nous laisserons alors une porte ouverte à diverses influences capables de nous déstabiliser, de nous déséquilibrer. Parce que ça veut dire qu'il y a un moyen de pression, il y a un levier. Quelqu'un peut faire pression sur nous parce qu'on n'est pas prêt à perdre. Qui c'est qui fait ça? Bon, c'est l'ennemi. Ça peut être au travers de circonstances, de gens, ça peut être plein de choses. Mais tant qu'on n'est pas prêt à tout abandonner, il reste toujours un moyen pour essayer de nous rattraper. Je crois aussi que tant que j'ai besoin du regard des autres pour savoir qui je suis, je ne peux pas prétendre à une vie équilibrée. Parfois, on a besoin que les autres nous disent qui nous sommes pour être comme validés dans qui on est, dans notre identité. Mais Jésus, le regard de Dieu sur ta vie va faire la différence. Si je dois essayer de... Si je cherche mon identité au travers des gens, je vais perdre ma cible, mon objectif. Parce que je vais commencer à vouloir plaire aux gens pour être aimé, je vais essayer de leur faire plaisir pour m'assurer que leur regard sur moi soit positif au lieu de rechercher ce que Dieu désire faire de moi. Donc je vais être déséquilibré, je vais perdre l'objectif. Alors nous devons répondre à ces deux questions tout au long de notre vie chrétienne et puis revenir sans cesse au regard de Dieu sur nos vies. Lui nous voit au travers de Jésus, au travers de la croix. Il nous aime parfaitement, il nous aime inconditionnellement. Et ce matin, j'aimerais simplement vous encourager à ne pas avoir peur de lâcher ce que nous avons entre les mains de Dieu, à perdre ce qui m'empêche d'aller boire cette eau fraîche, cette eau qui désaltère mes besoins profonds. Ce tiraillement intérieur que devait vivre Nicodème, mais il fait partie de l'enjeu. C'est normal qu'il y ait ça. Mais vous pouvez choisir d'être parfaitement libre, de découvrir une réelle joie, une paix intérieure, vous sentir aimé comme jamais auparavant, découvrir ce que Jésus a désiré pour votre vie, désirer ce jour, ce jour où il a désiré vous aimer. Cela est possible en choisissant de croire en Jésus, en acceptant qu'il soit celui qui vous désaltère jour après jour. Il nous offre la vie en abondance, la vie éternelle, une vie qui va même au-delà de la mort. Or, il n'y a aucune pression de la part de Jésus. Il n'y a aucune pression. D'ailleurs, sur cette place, il a fait pression sur personne. On est toujours libre. Mais c'est la réalité de son offre pour nos vies. Celui qui a soif, il peut venir à moi et je vais lui donner à boire. Il ne nous promet pas non plus une vie facile. Il n'y a rien de caché avec Jésus. Mais il nous promet d'être avec nous chaque instant, à chaque instant. Alors, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'aller au-delà de nos peurs? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'aller au-delà de ce « qu'en dira-t-on » Qu'est-ce que les autres vont penser? Que va-t-on dire de moi? Ou est-ce que ça va, qu'est-ce qui va vraiment changer? Et puis des fois, on a peur parce qu'on va un peu dans l'inconnu. Je disais cette citation de Oswald Chambers qui dit « Rien ne peut faire obstacle au but que Dieu a pour chaque personne, sauf la personne elle-même. » Intéressant. Je dois choisir pour ma propre vie. Ce n'est pas les autres qui vont faire obstacle, c'est nous-mêmes. Et pour ceux qui ont déjà dit oui à cette offre de Jésus, j'aimerais vous encourager à continuer votre route avec Jésus en étant toujours prêt à perdre ce qui doit l'être afin de marcher avec équilibre vers la bonne cible. Puis j'aimerais aussi, deuxièmement, nous encourager à rechercher le regard de Dieu sur notre vie. Le regard d'un père bienveillant. Son regard est tellement plus important que ce que les gens pourraient dire de nous ou voir en nous. Il est même plus important que celui de notre conjoint. Parfois, les couples mariés, c'est « Ah, t'en penses quoi? Tu penses quoi de moi ?» Puis, ok, c'est logiquement, un conjoint devrait nous bénir, nous soutenir, avoir des paroles valorisantes. Ça, c'est la théorie, ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand il n'y a pas ça, on fait quoi? Le regard de Dieu sur ma vie. Le regard de Dieu, il est même plus important que celui de nos parents. Puis quand on est jeune, quand on se construit, on a souvent envie de prouver quelque chose. Des fois, on ne le réalise même pas, hein, mais on aimerait réussir pour que nos parents soient fiers, pour que souvent les hommes, hein, on a besoin du regard du père, on aimerait que notre papa nous dise bravo, t'as bien fait. Parfois, il n'y a pas ça. Quand il y a, c'est super, mais s'il n'y a pas, qu'est-ce qui va me construire? Le regard de Dieu sur ma vie. On a parfois mis sur nous des étiquettes, hein, qui nous ont défini toute notre enfance. Puis des fois, on continue à les consolider, comme pour valider ce que les gens ont dit. C'est comme si ça nous, finalement, c'est ça qui nous donne le sens. Alors je vais prendre un truc très basique, comme ça, personne ne se sent visé. Alors, tu es nul en allemand, d'accord? Ok. Vous avez décidé que je suis nul en allemand. Alors je serai nul en allemand, comme ça tout le monde est d'accord, et puis moi je peux dire aux gens, en tout cas moi je suis nul en allemand. Puis ça me définit, je suis nul en allemand. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Probablement pas, mais moi je vais valider ça, comme ça j'existe. Puis je leur dis, vous avez raison. Le regard de Dieu sur nos vies vient bouleverser ce que nous pensions savoir de nous-mêmes. Il vient nous donner notre vraie identité et on se voit au travers de son amour. Il y a tellement de personnes qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Eh bien, le regard du Père, il vient changer cela. Le Dieu créateur, celui qui est au-dessus de tout, qui peut tout, lui me dit « Je t'aime, tu es mon fils bien-aimé, je suis fier de toi ». Il te dit « Fanny, ce matin, tu es ma fille bien-aimée ». En qui je mets toute mon affection. Plus rien ne peut te séparer de mon amour manifesté en Jésus. Il le dit pour chacun de vous ici. C'est ce regard-là qui doit compter, qui doit primer dans nos vies. Dans nos choix de tous les jours, recherchons son regard. Lorsque vous vous sentez abattu, lorsque vous vous sentez moche, peut-être ça arrive, on se sent moche, lorsque vous vous sentez perdu, lorsque vous avez l'impression d'avoir tout loupé, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai réussi finalement dans cette vie-là? Relevez la tête, demandez à Dieu de vous montrer comment lui, il vous voit. Et ça change tout. Je conclue, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, a dit Jésus. Et il a même ajouté que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La vie que Jésus offre, elle est abondante, elle est débordante, elle est même communicative. Il y a de la joie à transmettre cette vie-là. Il y a de l'amour à partager. Ce n'est pas juste quelque chose de timide. Et je prie que ça ne le soit pas dans ce lieu. Si vous avez reçu cette vie-là, qu'elle soit abondante. Laissez-la devenir abondante. Et ce matin, nous voulons nous réjouir. Il y a de la joie dans le ciel. Car Fanny, elle a reçu cette eau vive et nous allons prier pour que ça déborde, que la vie de l'Esprit en elle soit abondante, qu'elle puisse chaque jour choisir de suivre Jésus en laissant ce qui doit être laissé pour recevoir ce qui est nouveau, neuf de la part de Dieu pour sa vie. Ce matin, cette eau vive, elle est pour chacun de nous, quelle que soit notre situation. Si tu as soif, Jésus dit, viens, viens à moi. Si ta situation a asséché ta foi, alors reviens à Jésus ce matin, afin qu'il te redonne cette eau vive. J'aimerais qu'on puisse prier pour cela. Alléluia. Père, merci pour Jésus, ton Fils, tu as donné, qui s'est incarné, qui est venu là où nous sommes, qui est venu nous rejoindre. Et encore aujourd'hui, cette voix retentit dans ce lieu, dans nos cœurs, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Merci parce que cette offre faite il y a 2000 ans sur cette place, qui a tellement résonné, qui a étonné, qui a transformé aussi, cette offre est toujours vraie aujourd'hui pour nous. Seigneur, nous pouvons venir à toi pour être pleinement désaltérés, pour être vraiment comblés au fond de notre être, pour découvrir cette vie abondante. Seigneur, je prie ce matin pour que plusieurs puissent y répondre. Seigneur, c'est une question que tu nous adresses personnellement. Et je prie que nous puissions y répondre ce matin. Seigneur, tu vois tous les obstacles qui peuvent nous empêcher de venir à toi. Je prie aussi que ces obstacles tombent, que ces barrières tombent. Seigneur, ces obstacles que parfois nous nous dressons nous-mêmes et que seul ton regard sur notre vie puisse compter. Jésus, je prie pour chacun dans ce lieu. Seigneur, tu connais les cœurs. Je prie que tu viennes frapper au cœur. Saint-Esprit, je prie que tu fasses ton œuvre. Seigneur, on te remercie pour la vie de Fanny qui va témoigner tout à l'heure. Merci pour ce que tu as fait pour elle. Mais ce que tu as fait, tu peux le faire pour d'autres. Et tu désires le faire. Seigneur, je prie ce matin pour une assemblée qui dit oui, j'ai soif de toi. Oui, je veux boire à ta source. Chaque jour. Pas juste un petit peu. Chaque jour. Quelle que soit la situation, Seigneur, tu es la solution pour nos vies. Et je prie pour chacun qui traverse des temps difficiles, des temps justement d'assèchement, de désert, Seigneur, que ce matin, ils puissent reprendre confiance, se tourner vers toi et boire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.